Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports de Radio Foot International, comme chaque semaine sur RFI bien sûr, et vous en avez pris l'habitude, donc je vous le répète quand même en images aussi, puisque vous pouvez nous suivre à travers le Facebook Live de RFI. Invité dans ce studio avec moi aujourd'hui, je ne suis pas seule. Non, Rémi Ngono est là. Bonjour Rémi.
Bonjour Annie, bonjour Gilles et bonjour à mon cher... Bon.
Et vous il a présenté tout le monde. Merci Rémi de faire le travail à ma place. Bonjour les amis. Merci d'être là,
bonjour.
Olivier Pron et Gilles Verdez. Bonjour. Gilles Verdez, on a un petit cadeau pour vous parce que vous savez, on a eu 10 ans.
Ah oui, bah je sais.
Et alors, pour ces 10 ans, eh bien, on avait fabriqué pour la famille de Radio Foot des très beaux maillots.
Oh là là, mais c'est magnifique. Oh là là.
Hein, numéro 10, ça vous va?
Ah oui, c'est absolument.
De toute façon, vous n'avez pas le choix.
C'est un patrimoine.
Il n'y a que des numéros 10.
Voilà, ah d'accord, Gilles. Ah d'accord. Je pensais que vous m'aviez élu meneur de jeu.
Mais non, on est 10, 10 bougies, voilà. C'est pas encore trop lourd, alors ça rentre encore dans une équipe. Mais ça vous va très bien.
Super.
On était tous comme ça la semaine dernière dans ce studio. Nous aurons des débats aujourd'hui. Il y a 5 candidats au poste de la présidence de la CAF. Dernier inscrit juste avant minuit, on l'a su ce matin, le Sénégalais Augustin Senghor. Nous évoquerons donc cette course à la présidence avec l'un des autres candidats, l'Ivoirien Jacques Anouma, qui sera en direct avec nous dans quelques secondes. De la CAF à la CAN, avec les bons résultats des équipes qui jouaient hier, les éléphants bien aidés par leur nouvelle recrue Sébastien Haller, les lions indomptables prolifiques devant les buts mozambicains, les étalons ou encore les panthères, tous ont gagné. Bravo et on va en parler. Et puis la Hongrie, heureuse de rejoindre le groupe de la mort du prochain Euro. Les Hongrois se sont qualifiés en dernière seconde hier, renversant les pauvres Vikings irlandais. Vainqueurs des barrages donc, les Hongrois rejoignent l'Allemagne, le Portugal et la France. Est-ce un cadeau ou pas? Nous verrons. Nous aurons aussi tout à l'heure les cartons, mais tout de suite... les débats sont ouverts, une émission préparée avec l'aide de David Finzel et Pierre Guérin, à la réalisation Laurent Salerno et à la réalisation vidéo Swell Kedir. Radio Foot, c'est parti. L'heure limite a sonné et la liste comporte donc 5 noms, 5 candidats au poste de dirigeant de la Confédération africaine de football, dont l'élection aura lieu le 12 mars prochain. Ce sera à Rabat, au Maroc. Alors en dernière minute, puisque l'information n'a en fait été confirmée que dans la matinée, la candidature du Sénégalais Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise à Dakar. La liste avait déjà 4 noms, le président sortant, le malgache Hamad, qui achève donc son mandat de 4 ans, candidat à sa propre succession, le mauritanien Ahmed Yahia, à la tête lui de sa fédération, à Nouakchott, et puis le sud-africain Patrice Motsepe, lui n'est pas dirigeant de fédération, c'est un milliardaire, mais il est propriétaire du club des Mamelodi Sundown. Enfin, l'ancien responsable de la fédération ivoirienne, Jacques Anouma, est aussi candidat à la candidature déjà en 2013, nous en parlerons. Il est de nouveau candidat et il est en ligne avec nous. Bonjour Monsieur Anouma.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous dans Radio Foot International. La première question, elle sera très simple Monsieur Anouma. Pourquoi vous êtes-vous porté candidat à la présidence de la CAF?
Merci Madame. Je suis candidat d'abord... que les textes qui régissent la CAF aujourd'hui m'en donnent la possibilité. Et ensuite, je peux vous dire que je suis candidat parce que je pense que je peux valablement offrir au football africain une autre image, une autre vision, un projet renforcé, améliorer les acquis. N'oubliez pas que j'ai servi le football à plusieurs niveaux pendant plus de 30 ans. Au niveau national, au niveau régional, au niveau régional, continental et international. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons-là que j'ai décidé de porter ma candidature à cette élection. Et j'espère que les pays africains seront ouverts à mes propositions.
Olivier Pron.
Bonjour Monsieur Hanouma, on s'est croisé souvent ces derniers mois, c'est vrai que vous étiez très présent en général dans les rouages et dans les instances autour de la CAF. Quels sont vos soutiens? On sait que on a su ce week-end que vous aviez le soutien de la Fédération Ivoirienne bien sûr de football, il en faut à minima deux autres. Quels sont donc ces soutiens?
Mais écoutez, la première chose c'était d'avoir le soutien de mon pays, la Côte d'Ivoire. Et ensuite, j'ai pris la précaution d'avoir aussi d'autres soutiens, notamment le Niger, le Kenya, le Bénin et le Togo. Donc avec la Côte d'Ivoire, ça fait 5 au niveau des soutiens.
Monsieur Nouma, vous aviez tenté d'être candidat contre le président Ayatou en 2013. Finalement, vous n'aviez été que candidat à la candidature. Cette candidature n'avait pas pu aller jusqu'à son terme. Est-ce que cette fois, vous bénéficiez de son soutien?
Non, je pense qu'il ne faut pas. La question n'est pas si je bénéficie de son soutien ou pas. On ne peut pas, dans une telle aventure, ne pas demander le soutien de tous ceux qui, par le passé, ont marqué de leur empreinte le football africain, dont le président Ayatou. Ce n'est pas un soutien formel, mais c'est au moins savoir si le fait de vouloir candidater n'est pas une aventure. Je pense que je suis, comme vous le savez, l'un des tout premiers qui a osé, à l'époque, l'affronter. Donc aujourd'hui, vraiment, je m'appuie sur tous ceux qui, par le passé, ont dirigé cette institution, ont été des anciens présidents ou sont des présidents actuels. L'avantage, c'est que je ne me présente pas comme un candidat, le candidat d'un système ou le candidat de personnes qui seraient en dessous de cette candidature. Voilà, je suis le candidat de la Côte d'Ivoire qui a pu bénéficier du soutien de pays frères. Aujourd'hui, il y en a 5, mais on a le temps encore d'agrandir le nombre. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas m'appuyer simplement sur un seul soutien. Vous savez, il y a 54 pays, il faut au moins avoir 28 pour être président. Donc voilà, le moment de parcourir l'Afrique va bientôt commencer.
Vous parlez des pays frères, on peut penser que l'Afrique de l'Ouest est une communauté de pays frères, et pourtant, si on s'en tient à la liste établie pour le moment, on reviendra peut-être sur les modalités et les règles pour vous qualifier tous, mais il y a 3 candidats d'Afrique de l'Ouest. Le Mauritanien, Ahmed Yahia, il y a également Monsieur Senghor, depuis ce matin, le président de la Fédération sénégalaise. Est-ce que 3 candidats d'une même région aussi importante pour le football en Afrique, il n'y a pas un risque de que les votes s'éparpillent, de division?
A priori, ça pourrait être le cas. Mais je crois que nous avons tous d'abord pris le soin de pouvoir répondre aux critères de sélection. Maintenant que tous les dossiers sont déposés, c'est vrai qu'il va falloir que nous entretenions pour savoir exactement s'il n'y a pas possibilité de faire autrement. Parce que je suis d'accord avec vous, 3 candidats dans la même région, ça peut poser problème.
Des alliances sont possibles.
Tout est possible. Tout est possible. L'important, c'était d'abord de déposer sa candidature. Je me suis, pour ne pas trahir un secret, je me suis déjà entretenu avec le président Senghor bien avant même qu'il annonce sa candidature. Donc pour moi, ce n'est pas... il ne m'a pas dit ouvertement qu'il serait candidat, mais ce n'est pas une surprise. Donc voilà, je ne ferme pas la porte. Pour moi, ma porte est ouverte. De tous les candidats, je suis le plus ancien en âge. Donc, je vais essayer de jouer, de profiter de ma sagesse pour faire en sorte qu'on aille tous pas en rang dispersé, notamment en Afrique de l'Ouest, en espérant que je serai entendu. Mais il est important que cette discussion ait lieu entre nous.
Vous parliez tout à l'heure, on vous a senti un petit peu hésitant sur les je suis candidat à la candidature. C'est quoi les règles? Il fallait quoi en plus des 3 parrainages? Est-ce qu'il y a des dossiers qu'on pourrait voir retoqués là dans le week-end, dans les prochains jours sur ces 5 candidats?
Non, je ne suis pas hésitant parce que je pense que nous avons tous pris les dispositions pour que notre candidature soit acceptée. N'oublie pas que le président Hamad, d'après ce que j'ai lu dans la presse, aurait reçu le soutien de 46 fédérations. Nous sommes 5. Il est difficile. Il reste plus que 8 à se partager entre 4 candidats. Donc, je pense que chacun de nous a pris les dispositions pour en faire en sorte que les soutiens puissent passer le filtre de l'éligibilité, quoi.
Sachant qu'on ne sait pas encore si le président Hamad pourra être qualifié ou pas, puisqu'on sait que la FIFA est au-dessus de lui et pourrait lui signifier une mise à l'écart.
Monsieur Hanouma, quelle serait la première décision qui vous semblerait importante à prendre si vous deveniez président de la CAF le 12 mars prochain ?
La première décision, c'est de faire en sorte que la CAF devienne une brève fédération. C'est de permettre en sorte d'aspirer à fédérer tout le monde autour d'un vrai projet. Parce que je me suis rendu compte que actuellement, vous voyez, dans le même comité exécutif aujourd'hui, il y a 3 candidats. Voilà, donc ça peut a priori poser problème. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Donc si je suis président, il va falloir que tout le monde se mette ensemble autour d'un vrai projet. L'avantage que j'ai, c'est que je ne suis pas candidat pour plusieurs mandats. Voilà. Mon âge aujourd'hui me permet seulement de faire un seul mandat. C'est ce qui fait que je n'aurai pas l'envie de passer mon temps à fomenter des choses pour un second mandat.
Oui, vous avez 69 ans, il faut le rappeler.
Voilà, donc je vais plutôt prendre mon temps pour rendre cette institution forte. Je crois que c'est le souhait de tous ceux qui ont souhaité que je sois président. Il faut qu'on revienne à une institution forte, qui réunisse tout le monde et qui puisse à un certain moment aussi avoir son indépendance.
Justement, voilà. Justement, monsieur Hanouma, dans un calendrier, on en parle beaucoup et régulièrement dans Radio Foot International, de plus en plus rempli et qui occupe de plus en plus les joueurs, notamment les Africains, puisque les internationaux jouent beaucoup à l'étranger et en Europe. Dans ces calendriers bousculés, on sait que la FIFA faisait une certaine pression, en tout cas il y avait une suggestion, pour que la CAN soit tous les 4 ans. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce que vous y êtes favorable?
Écoutez, pour le moment, je me suis, je suis solidaire de la décision que la CAF a prise pour maintenir la CAN tous les 2 ans. Mais je crois que c'est un débat qu'il va falloir forcément ouvrir, pas forcément au niveau des membres du comité exécutif, mais il va falloir ouvrir ce débat au niveau de toutes les associations, parce qu'il va falloir y associer aussi les sponsors et toutes ces personnes-là qui participent à l'élan de cette CAN. Voilà. Et il ne faudrait pas que cette décision se fasse simplement dans un petit comité. Voilà. Moi, je me propose d'ouvrir le débat. Si la question a été posée, il ne faut pas la prendre à la légère. C'est qu'il y a matière à discussion. Donc, il faut avoir le courage de remettre ce dossier sur la table et de faire en sorte qu'on ait une seule vision pour ne pas avoir à faire une CAN à plusieurs variables.
Alors, avoir le courage, ça veut dire résister aussi aux pressions de la FIFA?
Oui, je pense que la FIFA est un partenaire vraiment privilégié. Voilà, je ne viens pas dans une volonté de m'opposer à qui que ce soit. Voilà, la Confédération africaine aujourd'hui a une position qui est ferme, c'est que la CAN doit être tous les 2 ans, et je m'inscris pour le moment dans cette vision. La FIFA a proposé 4 ans, mais il ne faut pas fermer la porte au débat. Voilà.
En revanche, vous rappelez bien...
Ce sera qu'un seul mandat pour moi, je ne serai pas dans une logique de calcul.
Voilà. Mais on comprend bien, en vous écoutant, que la CAF doit décider seule, doit s'affranchir éventuellement des pressions ou des conseils des autres.
décider seul, oui, mais il faut tenir comme quand je dis seul, c'est pas seul en tant que confédération. Mais vous ne pouvez pas être seul dans une CAN. Il y a tous les partenaires économiques, et puis il y a la FIFA quand même qui est aussi un partenaire privilégié. Mais si demain on est d'accord pour que la CAN soit véritablement tous les deux ans, mais on reste sur ses positions et puis le débat est clos. Voilà. Donc je dis pour le moment, ne fermons pas la porte à la discussion. Pour le moment, moi, je m'inscris dans une CAN tous les deux ans. Ça, pour le moment, c'est ma position.
Merci beaucoup, Monsieur Jacques Hanouma, d'avoir été dans Radio Foot International aujourd'hui pour évoquer votre candidature. Et évidemment, nous reviendrons à ces candidatures et à la présidence de la Confédération africaine de football dans nos autres éditions.
On espère surtout avoir tous les candidats.
Merci beaucoup.
Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. À bientôt.
À bientôt.
La Côte d'Ivoire, nous y étions, nous y restons. Cette fois, on descend sur le terrain et on va parler des éléphants.
Oh, le contre favorable pour Nicolas Pépé dans la surface.
Oui, c'est le coup de tête. Le coup de tête.
Ça fait 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Et c'est Sébastien Allaire qui va placer ce coup de tête. C'est son premier match avec la Côte d'Ivoire. Et c'est son premier but.
Il a l'air aveux.
Non, je regardais.
Excuse-moi.
Vous regardez les images, messieurs. Et oui, nous avons les images derrière nous pour ceux qui nous suivent via le Facebook. Les éléphants au rendez-vous d'un match d'une grande importance. Ils ont même dû patienter afin que la pluie battante hier qui s'est abattue diluvienne sur la pelouse d'un stade tout neuf, le stade des Bimpé, eh bien tout vide aussi puisque ce match était à huis clos. Ils ont attendu la pluie pour enfin rentrer sur le terrain. La Côte d'Ivoire s'est imposée donc face à Madagascar par 2-1, deux buteurs à souligner, car il y avait le tout nouveau convoqué, Sébastien Allaire, qui joue à West Ham en première ligue le reste de l'année, et puis le revenant, Gervinho, qui garde bien le rythme à Parme. Satisfaction, vous allez l'entendre, du sélectionneur français Patrice Baumel, au téléphone d'Éric Mamrut.
Je suis très content pour les garçons, des joueurs qui ont l'habitude de jouer avec les éléphants, d'autres qui mettaient les pieds pour la première fois. On s'est entraîné uniquement avec tout l'effectif deux fois. Donc, pas évident de préparer un match face à une équipe de Madagascar qui, je dirais, leur force, c'est le groupe, c'est la cohésion et surtout le fait qu'ils se connaissent depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc, voilà, le premier sentiment qui sort, c'est de la satisfaction et un soulagement. Dans l'état d'esprit, chaque fois, j'insiste en ce moment, mais c'était important de gagner ce match, forcément.
Alors forcément, c'était aussi une première pour ce nouveau sélectionneur. C'est un bon point pour le sélectionneur et pour ses choix, Rémi Ngono.
Oui, c'est un bon point, d'autant plus que Madagascar, aujourd'hui, on voit quand même aussi de nouvelles équipes qui s'affirment beaucoup en Afrique.
Oui.
Et puis,
ils avaient été la sensation de la dernière CAN, on s'en
oui,
souvient.
C'est ça. Mais aussi, on se posait quand même sur le retour de certains cadres. Parce que faire appel à Gervinho qui avait été écarté, et on a vu que c'est ce Gervinho-là qui était bel et bien là. On a aussi pu constater, par exemple, que Serédier, qui pratiquement était déjà perdu, est quand même revenu et il a essayé de stabiliser un peu le milieu de terrain. Donc on se dit, c'est une équipe, et puis ils ont perdu Kodia, donc d'où par exemple là également Allaire qui arrive et qui finit par se démarquer. Mais néanmoins, j'ai quand même constaté que ils manquaient de la fraîcheur physique. C'est-à-dire que au bout du bout, ouais, mais... lorsque justement Madagascar,
Rémi, il le dit, le sélectionneur, à un moment, ils ont eu deux entraînements avant parce que ils sont mobilisés sur une semaine, ils viennent de loin, c'est compliqué de se déplacer. Et on connaît le contexte en ce moment.
Et qu'on le remarque, ce manque de fraîcheur physique dans tous les grands championnats depuis quelques semaines.
Mais quoi qu'on dise, on peut le croire, mais quand on voit le niveau de Gouou, Sylvain, c'est hallucinant quand même. Même si, par exemple, à la 71e minute, lorsqu'on voit ce coup franc qui ricoche pratiquement le montant, et quand on voit aussi peut-être que à la 76e minute, c'est pratiquement Madagascar presque au niveau de l'égalisation, on se dit quand même que regardez la façon que la Côte d'Ivoire a géré la fin de match avec pratiquement un football radio ping-pong. J'étais beaucoup inquiet. Ça s'est achevé avec un jeu très, très haché.
Ça s'est bien fini. Le match retour sera sûrement compliqué, Gilles.
C'est une convalescence, c'est pas encore une rédemption quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu une fébrilité. Moi, je mettrais quand même l'accent sur Gervinho, parce que 23 buts, 5e buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Drogba est loin avec 65, mais quand même, c'est un joueur qu'on donne très souvent perdu pour les plus hauts sommets. Et parfois, il fait tout pour qu'on le donne perdu pour les sommets, mais il revient. Il y a une sorte de résilience chez ce joueur qui m'émerveille. Alors, il a perdu un peu de sa fraîcheur, pas de sa spontanéité, pas de sa technique, mais quand il est en forme, c'est un buteur quand même émérite. Et puis, bonne pioche à l'air, quand même. Première sélection, un beau but, de la percussion. Donc voilà, tout n'est pas perdu pour la Côte d'Ivoire. Alors voilà.
Bonne pioche, Patrice Baumel, c'est lui qui trouve à l'air, c'est lui qui fait revenir Gervinho, qui fait revenir Serédier. Donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'on rappelle qu'il était l'adjoint d'Hervé Renard lors du sacre de 2015.
Oui, il connaissait ce groupe-là, alors.
Surtout, chapeau globalement à cette équipe qui avait quand même la pression. Elle jouait pour la première fois dans ce stade. On connaît l'Afrique, on sait quel malheur il aurait pu... Il y a une sorte de fatalité, perdre... le match inaugural, c'est toujours compliqué. Et puis ensuite...
Ça condamne le stade.
On rappelle. Non, mais ça met une grosse pression sur les joueurs. Oui. Et la pression, il l'avait aussi parce que Madagascar comptait 6 points et qu'il fallait absolument revenir à hauteur avant d'aller à Mada pour ne pas se laisser décrocher et laisser les Baréas s'envoler tout seuls, même si on sait encore une fois qu'il y a 2 qualifiés par groupe. Et en étudiant chaque groupe, on voit à peu près qui sera la prochaine CAN quand même.
Il y avait aussi les Lions Indomptables qui ont gagné leur match contre les Mozambicains, n'est-ce pas, Rémi, le Cameroun. Victoire donc du Cameroun par 4-1. Des buts, on a eu un doublé de Vincent Aboubakar, lui aussi l'immortel, hein, parce qu'il est toujours buteur, Zambo Anguissa et Clinton G, qui a marqué en fin de match. Ils ont facilement vaincu ce Zimbabwe. Le Mozambique, c'est une équipe qui devrait jouer cette CAN à domicile. C'est un défi aussi pour le Cameroun.
C'est un défi et puis on voit quand même qu'il y avait un peu de contenu, d'autant plus que le capitaine manquait, donc Eric Choupo-Moting. Et puis on a quand même vu un Zambo Anguissa hyper rayonnant, ce qui a beaucoup rassuré. Et puis, on a vu une équipe qui allait un peu plus vite sur les côtés avec Bassorog, Ngameleu, sans pour autant oublier que, bon, que par devant également, il y avait Karl Toko et Kambi. Donc, c'est une équipe qui allait un peu plus vite et qui peut mettre n'importe quel adversaire en mal. Donc, aujourd'hui, je crois quand même que l'équipe du Cameroun assure. Ce n'est pas une équipe fébrile et surtout, il faut aussi féliciter l'hommage qu'ils ont eu à rendre aux victimes de la guerre qui s'est vue au Cameroun lorsqu'ils se sont mis pratiquement à genoux. Ça a marqué tout le peuple. Donc, c'est une équipe que nous félicitons par le comportement, non seulement en dehors du stade, mais aussi dans le stade.
Oui, ils seront dans la sauce dans quelques mois, n'est-ce pas ?
Moins de pression hein, quand même pour les Camerounais, on rappelle qu'ils sont qualifiés. Oui. Et puis on peut pas dire que la Mozambique et notamment sa défense...
ils sont qualifiés d'office, mais oui, voilà.
Ils sont sur une super série quand même, les Camerounais, hein, que depuis les matchs. Alors, le problème du Cameroun quand même, c'est qu'il faut que l'addition, la somme des individualités, forme un collectif à la hauteur de ces noms. Parce que quand vous voyez les noms, notamment offensivement, le Cameroun, c'est une très très grande équipe. Après, parfois, dans le jeu collectif, ça se délite, il y a quelques égos, parfois surdimensionnés. Là, il n'y avait pas, mais je suis assez d'accord avec Olivier, il n'y avait pas grand monde en face.
Oui. La défense n'avait pas pris l'avion, manifestement.
Elle avait eu peur du stade.
Très belle pelouse, très beau stade, c'est pas la première fois qu'ils y jouaient, mais le nouveau stade de Douala m'a l'air de fort belle facture et la pelouse de qualité, contrairement à ce qu'on avait vu des images à Abidjan, où là, il y a peut-être des progrès à faire sur l'état du terrain.
Et puis les étalons étaient au rendez-vous eux aussi, match important pour cette sélection du Burkina Faso. Des buts, 3-1 face au Malawi, le double buteur de la soirée, il s'appelle Lassina Traoré. Il évolue à l'Ajax d'Amsterdam et il en était à sa deuxième convocation. Il répond à notre correspondant Gabriel Barrois.
Je suis là il n'y a pas mal longtemps, donc je suis habitué à jouer avec eux. La détermination de toute l'équipe et puis qui m'ont poussé dès le début, et ça m'a mis en confiance.
Vous êtes au sein d'un très bon groupe, effectivement, qui aspire à la qualification.
C'est très important, la qualification pour le peuple, parce qu'on a manqué la dernière CAN et c'est l'objectif principal pour nous.
Les étalons, Rémi Ngono.
Non,
non, je voulais vous poser une question, c'est est-ce qu'un Traoré en cache un autre? Parce que on savait qu'il y avait déjà Alain, les frères, hein, Alain et Bertrand Traoré qui étaient sélectionnés dans cette équipe. Finalement, le double buteur de la soirée hier, c'est pas l'un des deux, c'est un troisième, mais qui s'appelle aussi Traoré, qui est jeune et qui donc vient de l'Ajax Amsterdam.
Ah oui, parce que l'Ajax nous produit quand même des pépites et il faut savoir aussi que l'autre était aussi à l'Ajax et à cette époque il brillait et il n'a pas été là. Mais surtout, il faut se dire que c'est une équipe qui se régénère facilement parce que quand on essaie de regarder quand même que la vieille génération avec les Kabouré qui aujourd'hui, les Bansé, on se disait que le Burkina allait beaucoup chercher. Mais on a quand même vu une équipe du Burkina qui reste dans sa logique, qui ne s'est pas délité, qui continue à progresser et qui nous produit encore quelques petites pépites là. Donc pour moi, cette équipe du Burkina peut encore créer une surprise pendant cette CAN.
Je trouve Rémi un peu enthousiaste et laudateur par rapport à cette équipe quand même. Même si à Traoré...
Mais tu vois, quand même.
Alors
aussi,
oui, alors double buteur et il rate un pénalty, Traoré. Donc à mon avis, il restera pas longtemps à l'Ajax. C'est un joueur qui est promis un très bel avenir. Mais globalement, il n'y avait pas grand monde en face non plus.
Tout le monde rate un pénalty, hein.
C'est pas extraordinaire, donc je pense que cette équipe-là n'est pas tout à fait prête quand même à remporter la CAN, comme semble croire Rémi.
Non, mais Olivier, cette équipe, on le sait, elle était un peu revancharde parce qu'elle n'était pas à la dernière CAN. Elle a été aussi passée, on se souvient, pas loin de la qualification à la Coupe du Monde, et tout ça avait fait que c'était quand même, il y avait un désir d'être là et d'être présent au prochain rendez-vous.
C'est une fois encore un pays de football qui mérite. C'était une anomalie qu'elle ne soit pas à la dernière CAN. Cette équipe qui a brillé, on s'en souvient, en 2013, qui avait pris la troisième place, me semble-t-il, en 2015 également, en Guinée équatoriale. Si mes souvenirs sont bons, donc les étalons seront là, sans aucun problème.
À signaler donc aussi la victoire du Gabon, avec un doublé, enfin deux buts à un, face à la Gambie.
Avec un but de Bouanga, et une passe décisive de Denis Bouanga, comme quoi arrivé la veille en jet privé.
Et but de Pierre-Emerick Aubameyang quand même.
Quoi, sans faire d'entraînement collectif, puisque les deux étaient arrivés la veille au soir, ce qui n'est pas toujours recommandé, et qui pouvait susciter quelques commentaires. Eh bien, ils s'en sont très très bien sortis.
Ah, donc, le prétexte de venir de l'Europe, qu'on est fatigué, c'est pour ça qu'on se délite. Comme avec la Côte d'Ivoire, ça ne tient pas. Donc,
ils étaient bien motivés.
Comme il y a un proverbe africain qui dit que l'éléphant, on ne trouve pas que ses trompes pèsent.
Et puis, il faut signaler la victoire du Ghana avec un doublé d'André Ayou, l'ancien Primark Vivien Foé. C'est à signaler parce que, comme le Sénégal, il y avait 6 équipes qui avaient remporté leurs deux premiers matchs, les deux première journée, sur ces 6 équipes, 2 continuent puisque le Sénégal avait remporté son 3e match. Et puis hier, les Ghanéens, c'était leur 3e match. Ces 2 équipes qui sont très très bien parties. D'autres tenteront aujourd'hui de les imiter.
Exactement. Aujourd'hui et demain soir, il y aura 2 matchs importants.
Nigeria, Tunisie, dans ce cas-là.
Alors on aura un RDC-Angola. Moi, j'avais choisi au Stade des Martyrs. Il y a aussi un Bénin-Lesotho à Porto Novo. Et puis pour ce qui est de Égypte-Togo, on avait parlé de l'Égypte cette semaine. À noter que l'Égypte jouera sans Mohamed Salah contrôlé positif au Covid-19 et qui donc ne pourra pas se joindre à ses camarades.
Et l'Égypte qui ne fait pas de bons résultats.
Oui, exactement.
Comme exactement aussi la RDC, parce que la RDC...
La RDC, il faut la surveiller parce qu'elle ne compte que 2 points, si je ne m'abuse pour le moment.
En 2 journées.
En 2 journées, donc match très important.
Mais on les surveillera pour lundi. On y reviendra.
Non, dans Mondial Sport aussi, n'oublie pas Mondial Sport, parce que tous les résultats seront
donnés samedi et dimanche soir.
Par Eric Chouin et son équipe à 21h30, temps universel, samedi et dimanche.
Une dernière nouvelle qui vient de nous parvenir et on y reviendra bien sûr plus largement plus tard, mais le président Hamad, c'est un communiqué de la Confédération africaine de football. Le président Hamad, en raison de la maladie, lui aussi il avait été touché par le Covid-19 mais assez durement parce qu'il a dû être hospitalisé. Il est rentré se remettre à Madagascar, mais vu son état et les conditions de son rétablissement, pour l'instant il laisse sa place pour une vingtaine de jours jusqu'à la fin du mois de novembre, jusqu'au 30, au premier vice-président de la Confédération africaine de football, qui est Constant Omari, le président de la Fédération de RDC.
On lui souhaite un prompt rétablissement, sans jeu de mots, mais c'est vrai que les temps sont compliqués pour lui, puisqu'il se murmure que du côté de la FIFA, on attend qu'il aille mieux pour venir le voir, lui signifier certaines choses.
En tout cas, pour l'instant, Constant Omari toujours, alors que le premier vice-président, c'était quand même un... C'était quand même un Nigérien.
Vous êtes Moujine. Constant
non,
et Marie,
au
Marie.
C'est lui maintenant. Ouais, voilà. Donc pour l'instant, voilà les changements à la tête de la CAF. Allez, on continue et on va parler des barrages. Parce qu'il y avait des barrages, il y avait encore 4 places à prendre en Europe pour le prochain Euro. Et ça, c'était hier soir, dénouement.
Incroyable encore cette opportunité pour les Islandais de reprendre l'avantage. Mais ce sont les Hongrois qui attaquent maintenant avec Szoboszlai qui va frapper de loin. Il l'avait annoncé avant la rencontre, c'était le match de sa vie. Il était passé complètement à côté jusqu'à présent. Szoboszlai, eh bien c'est lui qui qualifie peut-être la Hongrie pour la phase finale de l'Euro 2020.
On vous invite à danser, Gilles Verdez.
Avec plaisir.
Il valse très bien,
paraît-il. Oui, il fait tout bien, Gilles. Les Hongrois ont donc renversé les Islandais hier soir dans leur stade de Budapest. Les barragistes s'affrontaient pour une des places à 7 euros. La Hongrie a été menée jusqu'à la 88e minute sur sa pelouse, donc avant de renverser le match et de surtout tenir en main sa destinée. Premier but. Et puis dans la foulée, Dominique Szoboszlai, je crois que c'est comme ça qu'on
Bravo,
dit.
Ouais.
Il a libéré tout un peuple. Bah, vous allez pouvoir l'entendre parce que voilà un de nos confrères hongrois qui s'égosille à ce deuxième but de la Hongrie.
Szoboszlai, könnyes szép helyet csinált neki. Szoboszlai lő. Gól! Gól! Hát ez ott van! Milyen hosszabbítás! Semmilyen! Semmilyen! Le kell fújni! EB-re kell menni! Nem is kell menni sehova! Itthon kell maradni!
Donc c'est Szoboszlai.
Hugo Moissonnier n'a rien à envier ce commentateur.
N'est-ce pas?
Dans la gamme.
Alors cette nation, elle a un beau passé dans le football européen, oui. Gilles. Finaliste de la Coupe du Monde en 1938, en 1954 aussi. Absolument. On se souvient de contexte un peu particulier. Ils étaient du dernier Euro, mais c'est vrai que c'est une nation qu'on a vu un peu disparaître ces derniers temps. Elle est là. Bon, elle tombe dans le groupe de la mort apparemment, ça les dérange pas, mais ils seront avec le Portugal, l'Allemagne et la France. Est-ce qu'on va devoir se méfier de cette équipe?
Pas du tout. Alors, vous me permettrez un jugement global quand même avec un prisme africain. J'ai regardé ces matchs de barrage et j'ai regardé aussi pas mal de matchs ou d'extraits des matchs éliminatoires africains. Mais l'Afrique a surclassé l'Europe. Le niveau de ces barrages européens, mais c'est d'une médiocrité crasse. Très franchement, la Hongrie, alors ok, il faut les célébrer, on va célébrer l'Écosse, tous les pays que vous voulez, mais franchement, il n'y a rien. Alors oui, il y a Szoboszlai qui brille avec Salzbourg en Ligue des Champions et puis qui là a mis un but extraordinaire. Mais oui. Franchement, cette équipe hongroise, alors c'est très bien qu'elle soit qualifiée, elle jouera chez elle, mais elle va être éliminée au premier tour, je vous le dis, avec 0 point.
On est loin de Puskás, hein.
Mais on est très loin de Puskás. Oh là là.
Rémi.
Je suis
vous êtes comme Gilles? Non.
Je ne comprends pas. Je suis d'accord avec lui, oui, qu'il y a eu des bons matchs en Afrique. Mais dire que 0 point, il a déjà tranché Gilles Verdez. Mais c'est hallucinant. Mais cette équipe.
C'est la maîtrise du sujet.
Cette équipe de la Hongrie évolue chaque année. Et les gens oublient ça. Mais n'oublie pas qu'à l'Euro 2016, la Hongrie a failli éliminer le Portugal qui, justement, gagne l'Euro. La Hongrie
ouais,
fait.
Enfin, après, elle s'est pris une bidouille par la Belgique. Ils ont fait 3-3. À Toulouse, où elle n'a pas existé.
Mais ils ont fait 3-3. Ouais, ouais. Avec le Portugal.
Le Portugal donc, était le champion d'Europe le plus laid ces 40 dernières années.
Vous n'allez pas dire que cette équipe.
Tout le monde a fait match nul.
Double 0 point. Voilà, parlez de
tout
la Finlande.
Tout le monde a fait match nul contre le Portugal, même la France.
Vous avez vu le niveau de l'Islande? Vous avez vu le niveau de l'Islande? C'est bien plus faible que le Malawi, l'Islande.
Ah, mais.
Ridicule, des grands ballons en avant et rien.
Gilles. Oui. Est-ce que la Finlande. Oui. La Finlande. Qui a eu à marcher sur la crête du coq mouillé de la France.
En match amical.
Est-ce que, mais attendez, c'était un match amical.
Oui, absolument.
Il n'y a pas de match amical chaque fois que Didier Deschamps gagne. Il n'y a pas de match amical.
Ah bah nous, donc on
je vais
les
te dire, je vais
France.
Te dire, d'ailleurs, même la Ligue des Nations, on dit souvent que c'est des matchs amicaux. Donc je vais te dire que lorsque je vois cette équipe qui a joué et lorsque je vois son organisation, j'ai dit, elle est supérieure à la Finlande qui a piétiné les Bleus.
Ah d'accord, donc on va perdre 4-0 contre la Hongrie alors.
Je peux te garantir que ce n'est pas du tout gagné. Et va voir Didier Deschamps. Didier Deschamps va te dire qu'il est en train de réfléchir.
Ah bah,
comment est-ce que Kim Kong-Rong,
c'est Goulachy qui garde les buts hongrois face à la France, Mbappé va lui mettre 4 buts.
C'est la passoire Goulachy,
on l'appelle.
Et si Didier Deschamps nous dit la même chose que Gilles, il faudrait s'inquiéter. Il est dans son rôle, Didier Deschamps. Il va évidemment préparer cette rencontre. Je suis sûr qu'il attachera un peu plus d'importance au Portugal et à l'Allemagne quand même.
Oui, c'est sûr quand même que dans ce groupe, l'essentiel n'étant pas de participer, mais c'est vrai que de toute façon, leur but était de rejoindre cet Euro.
Ils jouaient à Budapest, c'est formidable pour eux, puisqu'ils auront leur match.
S'ils jouent à Budapest,
la question, c'est peut-être ça, parce qu'il y a énormément d'inconnus sur cet Euro. On sait par exemple que les télévisions qui doivent retransmettre attendent encore un peu les ordres pour savoir comment ça va se passer. On a un président Seferin qui nous dit il y aura du public, en même temps on voit qu'à chaque fois, alors il y en a eu en Hongrie récemment en Ligue des Champions, mais on n'est pas sûr en fait, il y a plein d'inconnus encore autour
dans
de cet Euro.
Villes, ça paraît quand même aujourd'hui bien compliqué d'imaginer un Euro tel que prévu dans 12 villes d'Europe.
Décision en mars, et le problème c'est que mars c'est la dernière échéance pour décider, pour les télévisions, pour l'organisation des équipes, pour les éventuels billets. Les billets ont été vendus, bien donc sûr. S'il n'y a pas de déplacement possible, il faudra les rembourser. Mais mars, saura-t-on où en est l'épidémie, la pandémie mondiale en mars ? C'est aucune certitude. Donc là, on s'achemine vers des scénarios compliqués. L'hypothèse, je pense qu'il ne faut pas exclure, même si c'est compliqué parce que c'est plus 8 équipes, mais l'hypothèse de la bulle, comme la NBA, n'est pas totalement farfelue à l'heure actuelle.
Ou comme le tournoi de Lisbonne, en fin de Ligue des Champions.
Oui, mais il y avait 8 équipes.
Oui, voilà, c'est ça.
Il y a aussi l'hypothèse Russie, qui pourrait organiser le tournoi, puisque...
Oui, au pied levé un peu, parce qu'ils ont les installations.
En 2018, tout est en place, 2 ans après, 3 ans après. Donc, c'est vrai que la Russie, même si officiellement l'UEFA dément, c'est quand même un scénario aussi probable, possible.
Ça va être très compliqué.
Là, dans ce cas-là, ça sera compliqué de rester sur un seul pays. C'est dommage, Rémi, pour les Islandais qu'on avait vu débuter l'Euro leur première apparition sur la scène autre que nationale, c'était avec l'Euro en 2016 en France. Après, on les a vus à la Coupe du Monde. Et là, on en a parlé cette semaine, c'est peut-être la fin d'une aventure, parce que bon, il reste la Coupe du Monde 2022, mais...
Ouais, c'est quelque chose de terrible, d'autant plus que... Mais en même temps,
ils ont mené jusqu'à la 88e minute.
Mais en même temps, ils ne vont pas aussi beaucoup manquer, dans la mesure où ils ne pourront pas faire leur ambiance,
c'est leur le public
et voilà, c'est le public qui le fait souvent, et bon, maintenant là il n'y a pas de public, donc je crois que ils se voyaient trop beaux, ils croyaient déjà pratiquement
qualifiés, ils n'ont pas
tenu
le score,
mais ils n'ont pas su tenir, et c'est ça, en toute chose il faut
en
considérer
plus,
la fin, si à la dernière seconde vous perdez de cette façon là, c'est de votre faute, ce n'est pas c'est de leur faute.
Gilles, vous dites passoire, c'est vrai que le but en plus des Islandais était chanceux quand même pour les Islandais.
Oui, c'est une équipe, vous le disiez, qui est en fin de cycle, en fin d'enthousiasme aussi. Je les ai trouvés non seulement fébriles, mais poussifs et émoussés dans la tête aussi, mentalement, alors que c'était une de leurs forces. Et c'est vrai que ça fait partie de ces équipes qui, sans leur public, même si quand ils se déplacent, il y a moins de gens, mais c'est une équipe qui a besoin d'un soutien populaire. Quand elle en est privée, elle est totalement orpheline, et sur le terrain, il n'y a pas grand-chose.
Un petit mot sur les autres qualifiés. Alors, on a l'Écosse qui revient, ça fait depuis 1998.
C'est un carton vert avant l'heure, hein, l'Écosse, hein, c'est très honnête. Ça fait plaisir à tout le monde de revoir les Écossais, on ne les avait pas vus depuis 98 en Coupe du Monde, 96.
On les voit plutôt en rugby, hein, Olivier.
C'est un pays que tout le monde aime bien. Allez en Écosse, si vous passez dans le coin, on y est toujours bien reçu.
C'est la grosse perf, parce que face à la Serbie, j'ai vu le match, ils ont tenu.
En Serbie.
Ils ont tenu. Et franchement, bon, il y a la séance des tirs au but avec leur gardien Marshall. La VAR, vous avez vu, a failli intervenir d'ailleurs. Serbes ont réclamé l'intervention de la VAR.
Parce qu'il n'avait pas les pieds sur la ligne.
Et oui, c'est compliqué. Mais franchement, c'est beau. Peut-être qu'ils joueront à Glasgow si les matchs ont lieu à Glasgow. C'est très enthousiasmant, c'est d'un niveau moyen.
Oui, mais c'est pas très technique, mais c'est
alors là, confirme.
Puis surtout un match de barrage,
comme disent nos amis rwandais.
Absolument.
C'est une équipe et c'est un groupe.
Surtout un match de barrage là, je crois que le style compte moins que le résultat.
Et pour la Serbie, c'est une terrible désillusion. Hein. La sélection serbe avec ses individualités, c'est totalement liquéfié au fil du match.
Là, qui est en plus, ils étaient extrêmement fatigués. On les a vus sortir avant la fin du match. Ce qui est d'amusant, c'est qu'ils tombent dans le groupe de l'Angleterre.
Alors, un match très attendu.
Ça va. Oui, surtout en temps de Brexit, c'est très intéressant. Ouais. Et puis la Slovaquie qui s'est qualifiée. Alors là, pareil, un match incroyable. Et c'était en Irlande du Nord. Il y avait des supporters en plus en tribune. Donc c'était un peu compliqué. Et la Macédoine du Nord. Alors là, évidemment, la grande première pour une autre nation. Mais bon, à partir du moment où on a eu un morcellement de l'Europe à un moment, eh bien, on a de plus en plus des nations qui font leurs premières apparitions.
C'est le tout petit Pousset qui est arrivé par la voie de la Ligue des Nations. Donc voilà, c'est une équipe méritoire. C'est la star vieillissante de 37 ans qui a marqué le but. Mais c'est une équipe qui sera là pour faire de la représentation. Mais représentation politique et d'une nation. Donc ça, je trouve ça très bien pour le coup.
Mmh, ouais. Vous serez spectateur de l'Euro, j'espère Rémi.
J'essaierai dans le stade.
Dans le stade, bah, si on y arrive, ça sera bien. Allez, notre session carton.
Carton jaune.
Un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Allez, on va prendre son temps pour ces cartons aujourd'hui. Rémi, à vous le premier.
Bon, je crois que à l'unisson, nous allons mettre le carton à Lionel Messi par rapport à l'arbitre. Mais bon, laissons-le, même s'il a raconté tout ce qu'il voulait raconter, il est déjà habitué à agresser toujours les arbitres comme ça, mais c'est Cristiano Ronaldo qu'on dit qu'il est un hérisson qui aime toujours hisser ses épines. Mais, revenant sur les arbitres, je vais mettre un carton rouge.
Ah donc c'est pas Lionel Messi?
Donc je laisse Lionel Messi.
D'accord, mais il n'est pas là, le réfé.
Le réfé n'est pas là, Xavier Barré n'est pas là, donc je laisse d'abord là-bas. Mais je reviens d'abord sur le continent africain, parce qu'on parle souvent des problèmes d'arbitrage, on parle du manque de professionnalisme, et on a encore pu le vivre pendant le match entre le Soudan et le Ghana, où justement un arbitre, je ne sais pas, une sorte de sauvageon inculte, quand même, qui ne respecte pas les règles élémentaires, qui devraient être exemplaires dans un stade. Mais cet arbitre, parce qu'un entraîneur, un sélectionneur conteste, et il y a une faute, et il y a pénalty, il ne siffle pas le pénalty. Et quand bien même un entraîneur conteste, au lieu de donner le carton jaune à l'entraîneur, ou au sélectionneur, ou de prendre une décision, eh bien, il dit, allez, ça y est, on fait le catch, on fait la boxe, on fait le karaté, il attrape et tout. Et quand je vois ces images dans des réseaux sociaux actuellement, je dis, il n'a pas la place dans un stade de football. Il ne doit pas avoir le sifflet. Et il y a un proverbe africain qui dit que on n'invite pas le loup pour arbitrer le match des moutons.
Cet entraîneur, en plus, c'est Hubert Vélude, hein, disons son nom, parce que c'est l'entraîneur du Soudan. Ouais. Et c'est lui qui, effectivement, a été bousculé par un des arbitres de touche.
Et qui s'est pris les pieds dans le tapis. Il n'était pas poussé très violemment, il a été poussé. Et en fait, derrière, il y avait une sorte de marche, un tapis.
Mais poussé déjà, c'est poussé.
Il a fait un beau plongeon, comme l'ancien gardien de but qu'il était. Il était poussé, bien sûr.
C'est quand même...
On dit aux arbitres, on dit aux joueurs qu'il ne faut pas toucher les arbitres. Ces grosses sanctions, cet arbitre-là doit prendre une sanction exemplaire.
Car si il on doit être exclu de pas le faire, des stades de football, parce que c'est quel exemple ça? C'est hallucinant quand j'ai vu ça.
Merci Rémi pour ce carton. Gilles Verdez.
J'ai mis un carton rouge.
Alors, c'est comme votre maillot du jour.
Absolument,
là.
À Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United. Alors, le directeur général de Manchester vient de lui renouveler sa confiance, ben moi je lui renouvelle ma défiance. C'est un incapable, je vous le dis tout net, c'est un incapable. Alors, son équipe est aujourd'hui classée 14e du championnat. Et surtout, cet incapable est en train de broyer notre star, notre icône, celui qui nous a fait champion du monde, c'est Paul Pogba. Parce que cet incapable, qui ne comprend rien à la tactique, je vous l'ai dit depuis qu'il a été nommé, il peut pas faire jouer Bruno Fernandes et Pogba, donc il sacrifie Pogba. Il l'a sacrifié en Ligue des Champions, il a perdu. Il l'a sacrifié à Everton, il a gagné. C'était un hasard miraculeux. Il est en train de nous tuer, Paul Pogba. Alors, Manchester United, c'est peut-être plus hypocrite. Peut-être qu'il est, non pas en faillite, mais qu'il perd énormément d'argent, veut vendre Pogba. Alors, peut-être que Solskjaer est en train de dire, comme je n'aurai plus Pogba bientôt, je le mets sur le banc. Mais Solskjaer se trompe, c'est lui qui va être viré. Avant qu'on écarte Pogba. Parce que moi, je vous le dis, c'était le super remplaçant. Ce serait super qu'il soit remplacé, Solskjaer. Manchester United, un réservoir de jeunes extraordinaire, avec un entraîneur comme ça qui ne connaît rien à rien, cette équipe va être broyée.
Pas sûr que Pogba soit au top en ce moment.
On a vu Pogba avec les Bleus. C'était Solskjaer.
Il est
qui était là.
Vous allez dire par son entraîneur en club qui ne lui accorde plus de temps de jeu. Il veut briller avec les Bleus. Heureusement que Deschamps lui fait confiance.
J'ai dit, c'est cet entraîneur-là qui a éliminé le Paris Saint-Germain, que tu vantes souvent tant. C'est cet entraîneur-là que vous étiez en train de vanter ici.
Jamais.
Xavier Barré. Et toi, avec
Elrefe,
vous avez dit que il dépasse José Mourinho. Il est venu soigner Manchester United.
Nul.
Quand même, il avait mis Pogba et Fernandes pendant le restart, là, quand le championnat d'Angleterre a recommencé. Et ça marchait très bien.
Mais voilà. Comme il est incapable de continuité, eh bien, il change tout le temps.
Pogba, il est quand même souvent blessé aussi.
Mais Pogba, il est blessé. Évidemment que parfois il est blessé, mais dès qu'il est blessé, Manchester perd. Pogba, vous le mettez sur un terrain, vous gagnez. Mais si vous avez un entraîneur
avec l'équipe de France, on a vraiment gagné.
Il n'a plus de temps de jeu avec cet entraîneur incroyable.
Non.
Bon, allez, on va continuer. Merci beaucoup pour votre carton en rouge, Gilles Verdez. Olivier Prom.
Change pas de couleur hein, avec une équipe qui gagne. Là, voilà, moi, je suis pas en rouge.
On reste dans le rouge.
Mais c'est un plaisir de mettre un carton rouge à Mediapro. On en mettra toutes les semaines jusqu'à ce qu'ils partent. Ils finiront par comprendre. Moi,
Mediapro, c'est la chaîne censée qui s'appelle Téléfoot.
C'est le groupe espagnol qui nous explique qu'il n'y a pas de quoi payer la ligue professionnelle de football français, la LFP. On rappelle qu'ils ont quand même acheté les droits d'un championnat majeur en Europe, la Ligue 1, pour plus d'un milliard d'euros. Et donc, ils n'ont pas les moyens de payer 172 millions d'euros. Mais on apprend, moi je suis bassement mathématique, hein, on apprend cette semaine que par contre, ils ont les moyens de distribuer 179 millions d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Alors voilà, ça m'interpelle. Je me dis, mais où va l'argent? Il y en a, il va pas au bon endroit. Donc ce sont des gens qui ne tiennent pas leurs promesses, qui ont de l'argent alors qu'ils disent qu'ils n'en ont pas. Il serait grand temps d'agir, mais y a-t-il quelqu'un capable d'agir à la Ligue professionnelle de football? C'est la grande question et un vaste débat.
On n'en parle plus beaucoup de ce sujet.
Mais ça mérite son carton rouge,
évidemment. On attend des nouvelles et effectivement, ils devraient peut-être ou pas se mettre d'accord sur un montant à régler. Oui, pour les clubs français, en tout cas, évidemment, sont un peu au désespoir. Radio Foot International a choisi un carton. Alors nous, il est vert, hein, messieurs. Vert, mais aussi doré. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un carton qui vient à Robert Lewandowski, mais surtout à un grand fan de Robert Lewandowski. Vous avez l'image derrière moi. Cette année, vous le savez, le magazine France Football a décidé de ne pas remettre de ballon d'or. Mais ce fan fou de Robert Lewandowski a décidé de lui offrir un ballon doré en Lego. Il l'a fait lui-même, suivant le modèle. Alors, si vous nous regardez, eh bien, vous pourrez voir ça. Et ça circule sur les réseaux sociaux. Un ballon d'or en Lego pour ce grand joueur, ce Polonais du Bayern Munich qui a marqué 55 buts l'année dernière. Déjà depuis le début de saison, parce qu'on peut pas parler de début d'année, il a marqué 13 buts en 11 matchs du côté du Bayern. Rappelons qu'il est pour la 6e fois champion d'Allemagne. Il est aussi champion d'Europe. Et ils ont gagné la Super Coupe d'Europe. C'est pas mal, Gilles.
Le geste est super et il aurait vraiment eu le Ballon d'Or.
Oui.
À un moment, je doutais, mais là, il l'aurait eu parce qu'il continue sur sa lancée. Il a raflé les titres. Il aurait eu. Vous vous rendez compte pour lui? C'est l'occasion unique d'avoir un ballon d'or plus fort que Messi et Ronaldo sur une année. Je suis pas sûr que ça se reproduise.
Et bon, plus beau que celui-là, parce qu'il faut reconnaître que celui-là est très beau.
Il a l'air reparti, en tout cas, pour refaire une saison avec beaucoup de buts. Qui sait si il aura pas le ballon d'or l'année prochaine. C'est la fin de ce Radio Foot International et de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé. Merci donc à David Finzel et Pierre Guérin, à Laurent Salerno, ainsi qu'à Swell Kedir. Vous pouvez nous regarder tout le long du week-end, si vous avez envie, à travers les réseaux sociaux et sur la page Facebook. Merci, à lundi. Saison.